Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL. Bonjour les amis de la curiosité.
Bonjour Christelle. On peut dire à Dominique de réécouter la curiosité parce qu'en podcast, on avait avec Bernard Glass raconté le pénétromètre en détail.
Justement.
Voilà. Et
d'accord.
Qui permet effectivement de mesurer la souplesse d'un terrain en fonction de l'humidité, de la pluie, etc. Et ça se calcule en Newton. Hein. Il a raison. Bon, ça n'a rien à voir, Christelle. On teste nos capacités sportives tout à l'heure sur quoi que. Vous verrez notamment.
Je vous laisse sur ce terrain glissant.
Alors, on va voir quoi. On va voir que l'élasticité est aussi importante que la masse musculaire pour réaliser des performances. Et puis, on va voir tout ce que les nouvelles technologies permettent de faire pour améliorer sa condition physique.
Et tout de suite, dans la curiosité, Alain Bachung.
RTL.
On vous dit, on a trop produit, on va tout perdre. Enfin, c'est des aberrations.
Elle a jonché d'or et de jade, ma routine.
C'est les histoires d'enfants gâtés ou c'est une organisation de chiottes,
là ? À l'arrière des berlines.
La curiosité est un vilain défaut.
Faut arrêter d'être intelligent, là, il faut aller plus loin.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez vous dans votre cabinet de curiosité sur RTL. Vous le savez, ici on se passionne pour l'histoire, la nature, les animaux, les grands destins. On se cultive dans la bonne humeur. Bonjour Anaïs.
Bonjour Thomas, salut les curieux. Alors quand on est curieux, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ce truc, on prend un shoot de dopamine, c'est-à-dire la molécule du bonheur, Thomas et tous les curieux. Et c'est pour ça qu'on est bien sur RTL entre 14 et 15 heures tous les jours. La curiosité, c'est l'émission qui rend heureux, heureux par exemple, de retrouver des grandes voix qui se sont tues, comme dit le poète. Aujourd'hui, on rend hommage à Bachung en chanson. Écoutez.
Je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne?
Très émouvant, notre chanson. C'était Immortel, le premier extrait d'En Amont, un album posthume qui sortira le 23 novembre. Avec vous, Stéphane Deschamps. Bonjour, vous êtes
bonjour.
Auteur, vous êtes
bonjour,
producteur
Anaïs.
Radio.
Bonjour
et,
Thomas.
Alors, bienvenue. Vous avez écouté cet album ?
Ah oui,
écouté. C'est du grand Bachung ?
On a les poils qui se dressent hein, sur les bras, ouais, c'est du grand Bachung. C'est très léché, c'est subtil. Cet album est réalisé par Edith Fambuena des Valentins, qui avait bossé avec Bachung en 98 pour ce grand album avec La Nuit Je Mens, Fantaisie Militaire. Donc, elle a ressorti 11 titres. Parfois des morceaux aboutis, d'autres acoustiques, juste guitare-voix, comme effectivement Immortel.
Et mais c'est des chansons qui avaient été enregistrées il y a plusieurs années, c'est ça si
absolument,
je vous
on va dire entre 2002 et 2008, à l'époque de L'Imprudence et de Bleu Pétrole, le dernier album.
Ouais.
Et quand on écoute ce disque, cet album, l'orchestre, la musique, les musiques sont vraiment au service de la voix d'Alain. La voix est très très en avant.
Et dans quelles conditions il a été réalisé ? C'est-à-dire qu'ils ont enregistré des petites sessions de ci, de là, et puis elle a regroupé toutes les chansons, c'est ça ?
Oui, absolument. Oui. Ils ont travaillé surtout sur les arrangements. Hein.
Donc
des arrangements
des
qui sont
de...
dépouillés. Les textes étaient déjà... la voix de Bachung avait enregistré ses voix.
D'accord.
Et il y a une anecdote, deux titres figurent sur cet album, deux titres de Dorian. Et Dorian ne savait pas, par exemple, que Bachung avait enregistré ses deux chansons. Et Edith lui a fait la surprise, lui dit « Viens voir, j'ai retrouvé ça dans les bandes, etc. » Et quand Dorian a écouté ses deux chansons, il a chialé, mais comme une madeleine d'émotion. Donc il ne savait pas que ces titres avaient été mis en boîte par Alain.
Et c'est un bonheur de découvrir cet album... Et donc cette première chanson, Immortel, l'album sort le 23 novembre. Stéphane Deschamps, vous publiez Alain Bachung, sa belle entreprise aux éditions hors collection. On va prendre le temps de découvrir un peu son histoire aussi. Il y a un univers, et souvent chez les grands artistes, on peut remonter à l'enfance, à l'éducation, pour comprendre pas mal de choses. C'est quoi l'enfance de Bachung ? Elle est simple, elle est compliquée ?
Elle est compliquée. Elle est compliquée. Alain est un bébé prématuré.
Sa mère est fille-mère, comme on disait
absolument.
À l'époque.
Elle a voulu se faire avorter. Hein. Elle a été dans le déni de grossesse pendant très très longtemps. Ouais. Et donc, Alain a survécu. Il en a d'ailleurs gardé une trace sur le sommet du crâne. Et au bout d'un an, et demi, ses parents n'avaient pas non plus les moyens. Ils vivaient dans une pièce à Paris. Mmh. Santé fragile du bébé, peu de moyens. Et donc, ils ont décidé de placer Alain Claude, c'était son prénom à l'époque.
Alain Claude ?
Ouais, chez les parents du père adoptif, qui sont alsaciens.
Donc, ah oui, parce que sa mère s'est remariée entre-temps, enfin s'est mariée entre-temps, lui il n'a pas connu son père.
Alors sa mère est bretonne et sa mère s'est mariée avec ce boulanger alsacien qui est monté en Alsace en moto pour faire sa vie tout simplement. Elle est tombée amoureuse de Roger et Roger est devenu donc le père adoptif d'Alain.
Alain Bachung n'a jamais connu son père biologique ?
Non, jamais.
Ouais, c'était une blessure pour lui ou
ouais.
C'était...
Oui, c'est un grand mystère. C'est une blessure parce que ses parents, sa mère biologique et son père adoptif, ne lui ont jamais dit la vérité.
D'accord. Donc lui, il se retrouve très petit, confié à la mère de son beau-père en Alsace.
Absolument,
c'est ça
dans un village qui s'appelle Wingersheim, c'est à 20 km au nord de Strasbourg.
Et ça a une importance très particulière parce que cette femme, elle ne parle pas français, c'est ça ?
On parle alsacien.
Oui.
Les journaux sont en allemand, on parle alsacien. Et Bachung a découvert la langue française, la littérature française, quand il est rentré à l'école primaire, à l'âge de 6-7 ans. Donc lui écoutait les radios allemandes, voilà, et on parlait en alsacien.
Comment il découvre la musique, Alain Bachung ? C'est très tôt, c'est très jeune ou c'est un peu plus tard ?
À cette époque-là, il découvre la musique, pourquoi ? Parce que la maison où il vivait a hébergé pendant la guerre les Allemands, a également hébergé des résistants, et puis les troupes américaines. Donc il a retrouvé des disques dans cette maison, des disques américains. Et puis il écoutait aussi à la radio, les radios des bases américaines en Allemagne. Donc il s'est forgé toute une oreille. Il a écouté Buddy Holly, Gene Vincent, Eddie Cochran, enfin tous les chanteurs américains rock de l'époque. Et puis en même temps, il se nourrissait des valses allemandes, Strauss, Wagner, etc., Kurt Weill, enfin voilà, il a découvert toute une ambiance musicale, j'oserais dire, un peu bizarre et romantique à la fois.
C'est une enfance plutôt heureuse ?
Non.
Non ? Pourquoi ?
Non, d'après, quand on réécoute des interviews de Bachung, c'est pas une enfance très très heureuse, c'est une enfance normale mais pas très heureuse parce que c'est un monde qui est dur. On est dans l'après-guerre, c'est une région qui est très très pauvre, à part quelques riches producteurs. Enfant de cœur, il s'amusait à raconter quelques années après qu'il observait les femmes du village qui, excusez-moi, mais s'envoyaient en l'air toute la semaine et qui, le dimanche, allaient à l'église. Donc une jeunesse un peu bizarre, un peu aseptisée. Son grand-père était aussi handicapé, il traînait la patte, enfin...
Voilà. Ouais, il s'ennuie.
Il s'ennuyait, donc ouais. Lui, ses seules fenêtres de tir en termes de bonheur, c'est les contes de Grimm, c'est effectivement les musiques à la radio, c'est Pim Pam Poum, voilà. Et puis le Tour de France aussi, parce qu'avec ses petits camarades, ses petits cousins, ils étaient tous adeptes du Tour de France, donc ils faisaient beaucoup de vélo.
Ça, c'est bien, c'est formateur.
Alors, Osez Joséphine, Vertige de l'amour, Thomas, et puis un de mes titres préférés, Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi ? Vous dites tout de la vie des grands tubes d'Alain Bachung dans un instant, dans votre curiosité.
RTL.
J'ai crevé l'oreille.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai dû rêver trop fort.
C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez.
Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Et aujourd'hui, c'est la vie d'Alain Bachung que nous retraçons en musique en compagnie de Stéphane Deschamps, auteur du livre Alain Bachung, sa belle entreprise, qui est publié chez Hors Collection. C'est un livre magnifique, bravo.
Merci.
Et on va le faire gagner à l'un ou l'un de nos auditeurs ou l'une de nos auditrices. Vous pouvez appeler au 3210 et répondre à une question qui est simple. Si vous nous avez bien écouté depuis 14h sur RTL, quel était le métier du beau-père d'Alain Bachung ? Voilà, si vous aimez la baguette, c'est un indice super compliqué. Quel était le métier du beau-père d'Alain Bachung ? Voilà, vous appelez au 3210, le premier qui donne la bonne réponse remporte le livre de notre invité Stéphane Deschamps. On a écouté tout à l'heure un extrait de cet album posthume. Qu'est-ce qu'il lègue à la chanson française, Bachung, encore aujourd'hui, 10 ans après sa disparition ?
Tout un héritage artistique, il lègue surtout beaucoup de choses aux musiciens. C'est vrai que les musiciens étaient, enfin en tout cas ceux qui ont bossé avec Alain, sont tombés amoureux de Bachung, artistiquement bien évidemment, parce qu'il laissait une liberté extrême. Et je crois que c'est ça aussi un peu l'héritage de Bachung, c'est cette notion de liberté, de création. À chaque fois qu'Alain enregistrait un album, en tout cas, on va dire sur la seconde période de sa vie, c'était un véritable laboratoire.
Vous avez travaillé avec lui directement ?
Non, j'ai pas eu cette chance-là, non.
Ouais.
Mais quand je fais référence au laboratoire, c'est la maison en Alsace. Dans cette maison, il y avait une pièce qu'on appelait la chambre noire. Et à 6 ans, 7 ans, 8 ans, il crée dans cette chambre noire avec ses petits copains de l'époque et ses cousins Il imaginait une caméra qui les filmait, donc il faisait semblant de jouer de la guitare, de la batterie, etc. Il créait des sons, déjà il mettait de l'eau dans un seau, voilà, ça résonnait, enfin bon bref.
Et déjà, c'est quoi son premier instrument de musique
C'est un harmonica.
Ça sort d'où ça
ouais, c'est... Offert par son père adoptif.
D'accord.
Par Roger, un harmonica qu'il a eu à l'âge de 6 ans pour Noël et qu'il dormait avec, hein, sous l'oreiller, comme un doudou. Et puis en même temps, il observait un violon qui trônait sur une armoire dans cette maison. Mais là, interdiction de toucher au violon. Donc il était subjugué par ces instruments. Et puis il y avait aussi des gens du voyage qui venaient régulièrement à Wingersheim, en Alsace. Donc il allait les observer en vélo de loin, bien évidemment, parce qu'il fallait surtout pas que les grands-parents soient au courant de tout ça. Donc il observait effectivement les gens du voyage qui jouaient de la guitare autour du feu et de l'harmonica.
Il va commencer des études quand même ou c'est bof ?
Est-ce que c'était un bon élève à la
Alors, le certificat, il a rejoint Paris, il a rejoint ses parents à l'âge de 11 ans. Donc il quitte l'Alsace pour aller passer son certificat d'études à Paris. Alors oui, Thomas, enfin c'était un bon élève, hein, mais voilà, sans plus, lui était déjà un peu dans un autre monde. Hein, mais en revanche, issu d'un milieu prolétaire, il fallait vraiment avoir un métier, quoi. Chanteur, c'est pas un métier, monsieur. Donc il s'est dirigé vers des études de comptabilité pour passer un BTS de comptable. Donc imaginez Bachung, le rocker, tenir des comptes, faire de la compta toute sa vie.
Ben non, alors, ça n'a pas tenu, forcément.
Pas possible. Ouais. Donc,
il a rapidement formé un groupe, c'est ça?
Ouais, parce que son amour pour la musique ne l'a absolument pas lâché. Hein. Il a ramené des disques, des imports d'Allemagne, de Cologne, de Stuttgart. Et donc, il a continué d'écouter de la musique. Et il a formé un groupe à l'âge de 13-14 ans, les Dunsies, en français les Cancres, avec des camarades du lycée et un voisin également. Et ils jouaient de temps en temps. Ils ont gagné quelques thunes. Les premiers cachets, c'était sur la côte atlantique à Royan. Donc, ils faisaient des saisons là-bas. Ils ont fait ça 2 étés de suite. Alors, il jouait les morceaux de l'époque, hein, Dylan, Beatles, Hugo Frey, mais il n'était pas électrifié. Quand je dis n'était pas électrifié, c'est qu'il n'avait pas l'argent, les gamins, pour s'acheter des guitares électriques. Donc il jouait acoustique, banjo, batterie, etc.
Il va commencer à gagner sa croûte en rencontrant une star, on peut dire, en rencontrant quoi, Dick Rivers, c'est ça ?
Alors ça, ouais, Naïs, c'est quelques années après.
D'accord,
mais en revanche, vous avez raison, il s'est vraiment forgé. Il a appris le métier de réalisateur, de musicien avec Dick Rivers. Mais avant de rencontrer Dick, il s'en est quand même passé pendant des années. Il a galéré, quoi.
Ouais, ça veut dire qu'il a ramé, c'est-à-dire qu'il commence à sortir des chansons, des albums, ça marche
ouais,
pas.
Ouais,
quoi.
Il a vraiment ramé. Bon, les Dunsies, pour en venir au groupe, ça ne marchait pas. Mmh. Et puis, il a rencontré Gérard Huget. Alors, Gérard Huget, c'était un directeur artistique de chez RCA. Ils se sont rencontrés au club Pierre Charon près des Champs-Élysées, qui était un club où il y avait beaucoup d'artistes à l'époque passés. C'était un peu l'endroit à la mode. Et donc, Gérard Huget l'a fait signer chez RCA, puis après chez Philips. Et il écrivait pour les chanteurs yéyé du moment, comme Pussycat, comme Noël Deschamps, voilà, des gens pas très connus, mais qui démarraient vraiment dans le showbiz, hein, dans la musique. Donc le premier parcours d'Alain, c'est un parcours de compositeur.
Et il a aussi travaillé avec Christophe ?
Oui,
le chanteur.
Il a travaillé avec Christophe quelques années après. Voilà. En même temps, la maison de disques, là, je parle du compositeur, etc., mais voulait en faire un chanteur, hein, un chanteur à la Mike Brandt. C'est-à-dire que les premières années, Bachung était prédestiné à devenir le futur Mike Brandt. C'était un peu le Tom Jones à la française, mais ça ne marchait pas.
Ah, bah ça, c'est rigolo. Ouais, vous savez, son premier tube va arriver assez tard. Ils vont s'acharner sur Mike Brandt. Ça s'appelle Gabi au Gabi. On va vous raconter l'histoire de cette chanson, sa recette même.
Je peux pas dormir, je fais des conneries.
Ah oui, sa recette, vous allez prendre de la bière, vous allez prendre des frites, vous allez voir.
Il faut
voir.
Tout ça pour faire un tube.
Oui, pour faire un tube, il faut tout ça.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls.
RTL.
J'avais en tête d'autres modes d'expression. Je voulais chanter un peu plus, exprimer des choses plus directement.
Un jour, je t'aimerai moins.
La curiosité est un vilain défaut.
La nuit, je mens.
Alain Bachung dans notre curiosité avec le producteur radio et auteur Stéphane Deschamps qui publie Alain Bachung, sa belle entreprise chez Hors Collection. Alors, après une période de sacrée lose, hein, quand même, on va bien le dire, il va connaître le succès avec quelle chanson ?
Avec Gabi au Gabi. 45 tours, la dernière chance. Il était sur le point de se faire virer par Philips, hein, parce que le dernier album ne marchait pas du tout, aux lettres russes. Et Gérard Baquet, qui était son directeur artistique à l'époque, qui s'est notamment occupé de Johnny et de Mort Schumann, a vraiment trouvé une solution pour produire ce 45 tours à l'époque. Donc, ils ont utilisé des queues de studio, de fin de studio de Paul Moria, qui était déjà financé. Donc ils ont fait ça un peu gratos, on va dire.
Et donc c'est vraiment l'album de la dernière chance. Ça veut dire que
le disque de la dernière chance.
Les autres chez Philips voulaient virer Bachung.
Absolument. Il était considéré comme un ringard, un has-been, Bachung.
Il a 35 ans, c'est ça?
Il a 33 ans.
33 ans.
Il a 33 ans cette époque-là.
Ils n'ont pas réussi à en faire Mike Brand, donc.
Voilà, donc. Bachung est un artiste sans concession, donc il est resté droit dans ses sandales, droit dans ses bottes, et ils se sont dit, bon, on va faire avec Boris Bergman un titre rigolo.
Et donc, voilà. Ils ressortent des tiroirs une vieille chanson, c'est
absolument, ça? Absolument, qui s'intitulait à l'origine Les après-midi d'un Max Amphibie. C'était carrément pour se foutre de la gueule de leur éditeur de l'époque qui s'appelait Max Enfuchs, qui était un personnage extraordinaire, complètement illuminé. Mm-hmm. Donc, il imaginait nageant entre sous l'eau, les coraux, etc., et en buvant son verre de pinard. Et Bachung a demandé à Boris de trouver un prénom pour ce titre. Et Gabi, ça vient de Gaboun. Et dans le jargon des Apaches, Gaboun, ça veut dire homosexuel. Donc ils ont trouvé ce truc-là, Gabi, oh Gabi, en hommage donc à Max Enfuchs. Ouais.
Et alors pourquoi il y a aussi une histoire de bière et de toilette pour Gabi, oh Gabi?
Quand les bases musicales étaient prêtes, le texte n'était pas une fois de plus abouti. Ouais. Donc ils vont en studio chez Dominique Blanc-Francard, enregistrer donc Gabi, oh Gabi. Et là, il manquait les phrases de liaison. Une fois de plus, on buvait beaucoup de bière. Donc Alain va aux toilettes et Boris se retrouve tout seul avec son petit calepin. Et puis, voilà, il pond spontanément. Ça sert à quoi la frite si t'as pas les moules? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules?
Mais c'est une vanne.
Oui, c'est une phrase de liaison, quoi.
C'est une phrase de liaison, ouais. Et il s'est dit, tiens, ça va faire marrer Bachung. Bachung sort des toilettes, stoïque. Il regarde les paroles, le texte. Il dit rien, hein. Pas un sourire, rien. Il se met derrière le micro, il faut une prise et c'est la bonne. Et Dominique Blanc-Francard, qui est à la console, est mort de rire. Il se dit, mais c'est incroyable, ils sont en train de faire un truc complètement barré. C'était un ovni, Gabi au Gabi.
Et il l'aimait, cette chanson?
Non, pas du tout, il l'a complètement renié.
Ah oui.
Point commun avec Gainsbourg, premier tube de Gainsbourg, Si Sex and Son, en tant qu'artiste solo. Et Gabi au Gabi. Cette chanson, Alain ne l'aimait pas et Gainsbourg n'aimait pas Si Sex and Son.
Quelle belle transition, on vous raconte dans un instant comment la rencontre de ces deux monstres, de Bachung et Gainsbourg, bien sûr, sur RTL.
RTL.
Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais?
La curiosité est un vilain défaut.
Je m'allume et je passe sur ma nuée, sur tes lèvres comme un lipstick.
Je vois mes albums comme des compléments au reste.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Volée de part en fumée, sous les yeux embués.
Alain Bachung en chanson, Alain Bachung en interview, c'était au micro d'Anthony Martin sur RTL à l'occasion de la sortie de l'album Bleu Pétrole, il y a 10 ans, tout juste. Et puis il y a un album posthume qui sort le 23 novembre, En amont, c'est le titre de cet album. Et on a écouté quelques passages, quelques notes du premier titre, Immortel, tout à l'heure. Vous êtes avec nous, Stéphane Deschamps, pour raconter Gainsbourg et surtout la fabrication de ses plus belles chansons. Et vous nous avez tendu une perche merveilleuse parce qu'on voulait parler de la relation particulière entre Gainsbourg et Bachung. Comment ils se rencontrent? Ouais, on peut dire ça, la filiation. Comment ils se rencontrent? Ça démarre comment, cette histoire?
Alors déjà, Bachung considérait Gainsbourg comme un peu son père spirituel. Ouais. Alors, la rencontre, Boris Bergman et Bachung se sont fâchés suite à un article de presse. Libération avait titré à l'époque en parlant de Boris Bergman, l'homme à qui Bachung doit 50% de son succès. Mmh. Voilà, bon, ils se sont fâchés et...
Je rappelle que c'est son parolier pour ceux qui nous ont...
Absolument, son parolier. Donc, secrètement, Bachung rêvait d'avoir Gainsbourg comme parolier. Et à cette époque-là, Gainsbourg était en pleine dépression. Jane vient de le quitter. Ouais. Alain aussi est en pleine dépression suite au succès foudroyant de Gabi au Gabi et de Vertige de l'amour.
Ah bah parce que oui, Gabi au Gabi, en fait, nous on aurait pu penser que c'était chouette et joyeux, mais en fait lui, quand on le reconnaît dans le métro et qu'on lui
dit... Monsieur Gabi, Monsieur Gabi.
Donc il n'aime pas du tout ça.
Non, il n'aime pas. Et il veut surtout lui, enfin. Se forger un public d'amateurs de rock, voilà, un public qui rentre bien dans son univers et considérer effectivement Gabi au Gabi comme un tube de variété, tout simplement.
Donc on a Serge Gainsbourg d'un côté, Alain Bachung de l'autre. Comment ils bossent? C'est à l'eau claire,
quelque chose. Déjà, les présentations, c'est Jackie, le fameux Jackie Bovitch de Jackie et Dorothée qui les présente. Parce que Jackie était attaché de presse de Gainsbourg et puis de Bachung. Ils se sont pas parlé pendant un quart d'heure rue de Verneuil chez Serge. Ouais. Bon, après, ça c'est un tout petit peu peu décoincé. Alors, comment bossait-il? Rendez-vous à 15h chez Serge. Ils attaquaient direct à la vodka Ricard. C'est vrai, comme disait Gainsbourg. Bah oui, vodka Ricard. Pourquoi mettre de l'eau? Pourquoi mettre de l'eau? La vodka, ça a la même couleur, disait Gainsbourg. Donc,
l'ambiance. Avec modération. J'ai obligé de faire le message.
Donc, ils bossaient ensemble jusqu'à minuit. Ouais. Et après minuit, ils partaient faire la tournée des Grands-Ducs jusqu'au petit matin. Ça a duré à peu près 2 semaines. Et Gainsbourg était, lui, toujours à la bourre pour rendre ses textes. Les bases musicales étaient déjà prêtes, mais il manquait les textes.
Ça donne un bel album. Voilà.
Ça donne un album incroyable. Un album considéré à l'époque par la maison de disques comme un véritable suicide commercial et artistique. On en a vendu 65 000. Ah oui. Mais en revanche, la critique branchée rock de l'époque considérait cet album comme un album, enfin, c'était devenu un album culte. C'était quelque chose d'incroyable, de la cold wave à la française, c'est-à-dire une espèce de new wave très froide, très sombre. Les thèmes abordés dans Play Be Sûr en 82, c'est l'apocalypse, le suicide, les désillusions, etc.
Ouais,
mais c'est quand même pas dégueu. Des titres comme C'est comment qu'on fane, c'est quelque chose, quoi. Et là, en revanche, Bachung s'est effectivement forgé un vrai public.
Alors là, il va retrouver ensuite Boris Bergman. Ils vont se rabibocher.
Oui.
Ils font l'album qui s'appelle Passer le Rio Grande.
Absolument. Et ils sont invités tous les deux à un festival de musique de film. Alors, comment sont-ils rabibochés? C'est rigolo. L'un à côté de l'autre. Le présentateur de la soirée présente Jacques Demy. Mesdames et messieurs, et maintenant, Jacques Demy et les deux, sans se concerter, font Demy avec mousse. Ils se sont regardés.
C'est le genre de band que j'aime bien.
Ouais, voilà, mais c'était vraiment. Ils avaient un rapport. C'était Laurel et Hardy, Boris Bergman et Alain Bachung.
Et donc ils se disent, il faut qu'on bosse ensemble.
Ouais.
Quoi.
Donc ça a donné naissance effectivement à un album très très solaire, Passer le Rio Grande.
Et ensuite il y a Oser Joséphine aussi.
91.
Alors Oser voilà. Joséphine, on en écoute un extrait. Parce qu'on parle, mais on n'écoute pas la voix de Gainsbourg.
De Bachung.
Ah oui. Parce que moi j'adore Gainsbourg. C'est de la suce. Allez, un peu de Bachung. Là aussi, c'est un grand succès qui revient.
Ouais.
Oser Joséphine.
Ouais, avec son ami et parolier Jean Faulks cette fois-ci. Mm-hmm. C'était un fantasme pour Bachung d'aller enregistrer à Memphis aux États-Unis avec notamment Sandy Landreth. C'est lui qui joue de la guitare slide sur Oser Joséphine. Donc on est dans un univers très, très, très blues, très folk. Il reprend également du Buddy Holly et puis du Bob Dylan sur cet album. Et c'est un véritable succès, Oser Joséphine, avec un clip incroyable.
Ouais, bien sûr. Et puis sur cet album, il y a aussi un titre étrange. C'est Madame Rêve.
Ah, parlons-en.
Et ben, on va en parler dans un court instant. Restez avec nous sur RTL juste après les pouvoirs sportifs et extraordinaires du corps humain.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Madame Rêve d'atomise et de silence.
Et toujours Alain Bachung dans la curiosité, 10 ans après la sortie de l'album Bleu Pétrole et puis juste avant la sortie de son album posthume, c'est le 23 novembre. On est toujours avec Stéphane Deschamps, Madame Rêve.
Un texte
c'est quoi l'histoire de
alors
cette
c'est un texte de Pierre Grillet et Pierre Grillet lui a envoyé ce texte qui a Bachung n'a pas percuté tout de suite sur ce fabuleux texte. Il est resté pendant 3 ans dans les tiroirs, puis au bout de 3 ans, il s'est dit tiens, je peux peut-être en faire quelque chose d'intéressant. Et Madame Rêve, c'est un hymne à la masturbation féminine. Voilà, accompagné par des violons magnifiques. Ouais. Oui, Anaïs.
Non, j'allais dire, il y a un hymne à la masturbation féminine et il y a aussi dans l'œuvre d'Alain Bachung, on n'est pas d'accord sur
un
l'exégèse
hymne,
de
un
la
hymne
texte.
Au sexe masculin,
un
on écoute. On écoute.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Vous avouez mon angélisme. J'adore cette chanson, mais j'ai jamais pris la peine de bien écouter les paroles. Et effectivement, depuis qu'Anaïs m'a dit, écoute bien, c'est clairement il parle de son sexe en
aussi,
fait.
Aussi, ouais, il y a plusieurs codes.
Oh,
voilà.
Stéphane.
Bon.
Tâtez là cet épiderme qui fait que je me dresse, Stéphane.
Oui, c'est clair.
Si vous êtes chef d'entreprise, vous faites ça. Peut-être d'ailleurs. Mais...
Chacun fait ce qu'il veut dans son bureau.
C'est une entreprise amoureuse, voilà.
Oui,
bon,
donc
okay.
On est assez clair.
Voilà.
Alors une question sur Twitter de Joël Marsal qui nous dit est-ce que quand il a écrit Angora, il savait qu'il était malade? Et Joël nous dit
faucher les blés, apprendre à manier la fourche pour retrouver le vrai, faire table rase du passé.
La discorde. On est comme ça dans la curiosité, on passe de la masturbation féminine, de la petite entreprise d'Alain Bachung à son cancer.
Ouais.
Pour terminer,
pour répondre à la question.
Quand il écrit cette chanson, il le sait qu'il est malade?
Non, je pense pas. Alain a annoncé son cancer à son entourage et à ses musiciens à la fin de l'album, à la fin de la production de l'album Bleu Pétrole en 2008. Et cette chanson a aussi été écrite pour son fils Arthur Angora, qui était asthmatique.
Et ben voilà,
quelle
grâce à vous,
chanson.
On sait tout. Merci beaucoup.
C'était
un bonheur de vous recevoir dans la curiosité.
Merci de votre accueil.
Votre livre, Alain Bachung, sa belle entreprise aux éditions hors collection. On le conseille à tous nos auditeurs et on félicite Cédric qui nous a appelé au 3210 depuis le Lot, depuis la ville de Cayac. C'est vous qui remportez ce très beau livre. Bravo Cédric.
Merci beaucoup.
Merci.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.